Merci de nous retrouver sur Esprit Occitanie avec notre émission sur l'aéronautique. L'oiseau blanc, Philippe Trousselard, bonjour. L'oiseau blanc avec aujourd'hui
Farid Zizi.
Le temps passe décidément trop vite. Déjà 4 ans que je recevais ici celui qui venait de quitter ses fonctions à l'Organisation Civile Internationale, l'OACI, dont le siège est à Montréal. Je l'avais alors invité pour qu'il nous fasse partager son expérience très récente de président de la Commission de la Navigation Aérienne. Alors, parlons un peu de cette commission. Bien que les commissaires de cette commission soient désignés par des États membres de l'OACI, ils ne représentent pas les intérêts d'un État, ni d'aucune région en particulier. Ils remplissent donc leurs fonctions de manière indépendante et utilisent leurs compétences dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté de l'aviation civile internationale. Je dirais que cette commission est une belle image de cette organisation internationale créée comme, et là je cite quelqu'un du 8 mars 2018, créée comme un projet civil de paix qui utilise l'aviation pour le construire. Au sein de cette commission de la navigation aérienne, il faut savoir qu'un expert français y est donc élu depuis la création de l'OACI le 4 avril 1947. Finalement, nous venons de fêter les 75 ans. Et seulement 2 Français ont occupé cette présidence, oserais-je dire par reconnaissance de leur père. Et un seul, si je ne me trompe pas, a été élu à 3 reprises, de 2014 à 2016. Eh bien, c'est celui que je reçois aujourd'hui pour la 2e fois ici, à ce micro, mais cette fois-ci en tant que directeur général de la société France Aviation Civil Service. Frax, basé à Toulouse. Bonjour, Monsieur Farid Zizi.
Bonjour.
Vous allez donc nous faire découvrir votre nouvelle mission et bien évidemment celle de votre entreprise créée le 1er septembre 2019. Alors, l'objectif de sa création a visiblement été celui d'une projection de l'expertise française dans ce domaine de l'aviation civile internationale, sans pour autant, je dirais, se marquer, oserais-je dire, se faire remarquer, par des liens trop contraignants avec notre structure nationale. Alors bien évidemment, l'objectif de cette heure n'est pas de perdre nos auditeurs dans une discussion trop technique, mais bien d'appréhender comment une entreprise comme la vôtre peut apporter à cette aviation civile, internationale donc, ce savoir-faire français qui, osons le dire, est envié et reconnu. Vous avez déclaré, je crois, à la création de cette société Frax, que, je vous cite, que vous vouliez contribuer à mettre sur pied l'équipe de France au mondial de l'aviation civile. Alors j'ai une autre situation, toujours du 8 mars 2018, 4 ans déjà, j'ai toujours pensé que les compétences étaient essentielles. Alors grâce à ce sélectionneur de compétences que vous êtes donc, nous allons décrypter ce que contiennent désormais ces mots aviation civile, nous aider à comprendre leur enveloppe, et nous essayerons ensuite, si vous le voulez bien, de décliner ces services, au pluriel, de France Aviation Civil Service. Un nom d'ailleurs facilement compréhensible à l'international, sans traduction. Alors pour tout simplement découvrir et réellement ouvrir la porte de cette société Frax que vous dirigez et que la région toulousaine a la chance d'abriter. Mais avant, Farid, vous le savez, il y a un passage obligé dans cette émission, celui qui consiste à nous aider à mieux vous connaître. On vous a déjà un peu découvert il y a 4 ans, mais à connaître cet humain que vous êtes, même si en effet depuis 4 ans, et vous connaissant, je sais que vous êtes resté le même dans ce monde agité.
Merci Philippe. Bah écoutez, c'est un honneur pour moi d'être ici. Toujours content de servir l'aviation civile mondiale, la servir en tant que Français aujourd'hui, mais toujours avec le même objectif, cet objectif de paix. Je suis moi-même issu de plusieurs pays, et puis cet objectif aussi de partage du voyage, de la curiosité des uns par rapport aux autres, et de cette aviation dont l'objectif essentiel, un avion, c'est d'abord fait pour passer une frontière. Et c'est donc fait pour réunir des gens de cultures différentes. Et France Aviation Civil Service y contribue. Alors moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que là-dedans? Simplement mon voyage qui commence à s'étirer d'ailleurs. J'ai passé un âge canonique cette année dans l'aviation civile et j'ai traversé les centres opérationnels de contrôle aérien français. J'ai également beaucoup œuvré à l'ENAC, à la formation des contrôleurs dans un premier temps, puis de tous les corps de métier de l'aviation civile. Puis l'OACI, vous en avez parlé. Et puis après un bref passage au STAC, Service Technique de l'Aviation Civile, je suis maintenant en charge de France Aviation Civile Service, qui s'appelait autrefois DSNA Service. Donc voilà qui je suis. Une personne normale, assez passionnée d'aviation, assez passionnée de relations humaines internationales, et dont l'objectif... j'ai découvert à l'OACI que la France était un grand pays de l'aéronautique. Sur la carte du monde, ça me paraissait pas complètement évident que la France était un si grand pays que ça. Mais c'est un des seuls pays à avoir tous les savoir-faire de l'aéronautique. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, ils se comptent sur moins que les doigts d'une main. Et autant mettre ça à portée du monde. Et puis la deuxième chose, c'est ayant œuvré à l'OACI pas mal à développer un certain nombre de textes, de standards, de règles pour le monde entier, maintenant je suis obligé, et j'essaye, pas simplement par obligation, mais d'aider un certain nombre de pays à les mettre en œuvre. Et je trouve ça assez, alors parfois difficile, mais assez agréable d'avoir une sorte de rebond par rapport à une mission précédente.
Alors, si vous permettez, j'ai deux questions un peu plus personnelles à vous poser avant de rentrer dans le sujet FRAX. Vous avez parlé de l'humanité donc internationale. Puis-je vous demander où vous l'avez puisée, cette humanité?
Mon père est algérien, ma mère allemande. Ils se sont rencontrés à Paris, je suis français. Donc assez clairement, dès mon plus jeune âge, je me suis posé des questions sur la guerre, puisque je suis quand même issu de deux pays qui ont fait la guerre à la France, et donc sur la paix. En Allemagne, j'avais de la famille à l'Est et à l'Ouest, donc sur le bloc de l'Est, sur le bloc de l'Ouest. Je connais le mur très bien, j'ai été occupant comme soldat français chez mon grand-père. Et donc tout ça m'a amené à réfléchir au sens... des valeurs des hommes, pourquoi à certains endroits on réagit comme ça, pourquoi on réagit autrement. J'ai beaucoup apprécié mon séjour à l'OACI. J'avais fait pas mal de projets internationaux jusqu'à cette période-là. A contrario, quand on est dans un projet ou qu'on a un partenaire, on s'apprivoise, on finit par trouver un modus vivendi, on crée un pont, c'est très très agréable, c'est très sympa, mais c'est pas du tout la même chose que de travailler au quotidien avec une vingtaine ou 25 nationalités différentes, des formes de raisonnement et de culture qui sont différents sur des problèmes qui changent tous les matins. Et ça, je l'ai appris à l'OACI, j'ai beaucoup aimé. En tous les cas, je tiens à ce préambule de la Convention de Chicago qui dit que l'aviation est là pour unir les peuples.
Alors, on avait parlé d'ailleurs de ce préambule dans une précédente émission. Et une question, là, je dirais plus toulousaine. Ce retour à Toulouse après Montréal, il n'a pas été trop dur?
Non, vivre à Toulouse, ça ne peut pas être dur. Quitter Montréal, c'est difficile. Montréal est une ville extrêmement agréable à vivre. L'autre chose qui est un peu plus difficile, mais que j'ai retrouvée au travers de Frank, c'est de passer d'une perspective internationale au quotidien à une perspective nationale. Bon, à contrario, ce qui est très agréable, c'est de passer du livre à la pratique. c'est bien de collaborer aux livres, aux règles, aux règlements. C'est bien aussi de les mettre en pratique. J'ai toujours essayé dans ma vie professionnelle de faire le lien entre les deux. Non, vivre à Toulouse, c'est sympa. Il y a beaucoup plus de pistes cyclables qu'à l'époque où je l'ai quitté pour Montréal. Et donc, j'apprécie toujours d'y
être. Puis, il y a moins de neige, finalement.
Sauf le week-end dernier. puisque je suis revenu la semaine dernière de Lomé, Togo, et je me suis retrouvé dans la neige à Toulouse. Mais moi, j'adorais la neige à Montréal. Hein. J'adore ce froid sec où il fait très beau. Et une petite anecdote, j'ai un collègue finlandais qui a quitté à un moment donné, puisqu'on est tous censés quitter à un moment donné l'OACI. Et je lui demande ce qui va lui manquer. Et il me dit, c'est l'hiver. Alors là, je le regarde, je ne comprends pas. Parce que je lui dis, mais toi, l'hiver, tu l'as. T'as de la neige. Oui, mais j'ai pas la lumière. Et en fait, à Montréal, on a les deux.
Il y a une belle chanson, d'ailleurs, là-dessus. Hein.
Oui. Mais c'est vraiment très, très joli, très beau. Hein, quand vous avez les arbres un peu gelés qui scintillent au soleil. Il n'y a pas besoin des petites lumières de Noël.
Alors, après cette version, disons, poétique, hein, en regardant la neige, le soleil et la lumière de Montréal, on va aborder les questions plus techniques. Alors, on parlait de Frax, votre société, France Aviation Civil Service. Alors, si vous permettez, est-ce qu'on pourrait déjà décliner ce que contiennent ces termes aviation civile ?
Alors, c'est assez simple, Frax, on est français, on offre des services et surtout le spectre d'activité de l'aviation civile. Donc typiquement, ça a été créé par la DGAC ELENA qui en sont les membres fondateurs.
Donc la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, et l'ENAC, l'École Nationale de l'Aviation Civile, pardonnez-moi, mais...
Oui, mais vous avez raison de me reprendre... J'exècre les acronymes, particulièrement quand je ne les comprends pas, mais je me surprends à les utiliser. La Direction Générale de l'Aviation Civile et l'École Nationale de l'Aviation Civile. Et l'objectif, c'est de partager notre savoir-faire. Et vous parliez tout à l'heure d'équipe de France au Mondial de l'Aviation Civile. Alors, c'est une expression que j'ai trouvée, mais qui me plaît bien. Parce qu'il y a une notion d'équipe, de partenariat, et l'idée c'est de reproduire des savoir-faire, des combinaisons de savoir-faire avec certaines entreprises, certains services de l'aviation civile, et puis de produire des matchs. Le match est gagné quand on a satisfait à l'objectif du projet qu'on a servi. Et on est bien au mondial de l'aviation civile, c'est-à-dire que l'objectif c'est pas de vendre la France pour ce qu'elle fait chez elle, c'est vendre la France pour ce qu'elle sait faire, pour servir les objectifs mondiaux de développement de l'aviation civile. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Ce n'est pas du copier-coller de la France métropolitaine. C'est du savoir-faire au service des standards internationaux.
Alors, est-ce qu'on arrive, cette aviation civile, et on parlait tout à l'heure de la convention relative à l'aviation civile internationale, donc, qui a été signée à Chicago en décembre 1944. Il me semble qu'à cette époque, on focalisait peut-être plus, ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, sur ce lien entre les peuples pour la paix. Et donc le lien unifiant les peuples avec ces vols commerciaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une approche plus élargie des termes aviation civile ? C'est-à-dire qu'avant, on se focalisait peut-être un peu plus sur les compagnies aériennes, l'avion. Est-ce que tout cet aspect commercial sur lequel on a vécu une croissance très forte durant ces dernières années ne s'est pas élargi à des secteurs plus précis ? Je pense aux aéroports, au tourisme, les liens avec les constructeurs, etc.
Alors, bon... Je pense que l'objectif premier reste valide. Clairement, il se décline dans toute sa dimension. La dimension, évidemment, de l'ensemble des acteurs de cette aviation civile. Hein. Donc, assez traditionnellement, on pense à l'avion, on pense aux pilotes, on pense aux compagnies aériennes, mais ils ne sont rien s'il n'y a pas des aéroports pour se poser, s'il n'y a pas des espaces aériens contrôlés à traverser. Et puis, au-delà de ça, on a, depuis les années 80, enfin, surtout 2001, une dimension sûreté qui est importante, et depuis maintenant plusieurs décennies, une dimension environnement qui est également importante. L'aviation fait face aux problèmes du monde, fait face aux problèmes de cybersécurité qui peuvent exister. Elle embarque des problématiques avec les drones, avec la digitalisation, avec l'automatisation. Donc elle n'est pas étrangère au monde, elle est dans le monde et elle est là pour connecter le monde. Et ça signifie beaucoup d'acteurs, beaucoup de choses différentes et beaucoup d'évolutions, parfois rapides, toujours trouvées trop rapides. Mais bon, le monde autour de nous bouge et l'aviation bouge de façon relativement dynamique avec lui. Il y a eu énormément d'efforts ces derniers temps sur l'environnement. Un avion d'aujourd'hui, ça consomme et ça émet 30% de gaz à effet de serre en moins qu'il y a 20 ans. Je trouve assez injuste le procès qui est fait à l'aviation. Parce que c'est un secteur, c'est le seul secteur au monde d'ailleurs qui a une réglementation mondiale en la matière, au niveau de l'OACI, et ça c'est un petit peu injuste ce qui se dit de nous dans un certain nombre de médias ou dans l'entendement commun.
C'est-à-dire que l'avion, en fait, on le voit, c'est valable aussi sur les aéroports, le bruit au niveau de l'aéroport, l'avion, on le voit. Je pense que sur la place, une place au niveau de Toulouse, le bruit est tellement diffus qu'on n'arrive pas à discerner les causes, finalement.
Oui, mais enfin, on voit la voiture, on les voit, les voitures. Moi, quand je prends mon vélo le matin pour aller au travail le long du canal, le premier bruit que j'entends, c'est le bourdonnement de l'autoroute entre Toulouse et Montpellier. Et je l'entends dès le village. Et parfois, je me dis, tiens, il y a un animal là. Mais non, c'est le bourdonnement de l'autoroute. Enfin, le bruit de la voiture est toujours là. Le bruit du train, on l'a accepté. Il passe dans le jardin parfois. Celui de l'avion qui a largement diminué ces derniers temps, on l'accepte moins. Alors on l'accepte moins aussi parce qu'il y a une notion un petit peu de peur d'un engin qui vole au-dessus de vous et dont on a l'impression qu'il peut tomber, enfin malgré les statistiques qui sont quand même plutôt en faveur de l'avion. Mais bon, voilà. Bon, mais j'ai tort peut-être d'en faire une cause. Ce qui est clair, c'est que par contre, toute la communauté aéronautique travaille encore sur ces questions-là.
Oui, je pense que vos fonctions que vous avez eues au niveau de la présidence de la commission de navigation aérienne à l'OACI ont montré que, justement, ces travaux de cette commission étaient en particulier ciblés sur tous ces domaines.
Alors, en tant que commission de navigation aérienne, je vais parler, on n'a pas obligatoirement en charge l'annexe 16 de l'OACI, qui est celle qui gère les questions environnementales. Par contre, elle passe devant nous parce que, évidemment, ça a des liens avec la motorisation des avions et un certain nombre d'autres questions. Mais clairement, j'ai assisté à toutes les dernières assemblées de l'OACI depuis 2010, 2013, 2016, 2019. Dans toutes ces assemblées, l'environnement était une question principale. Et à chaque fois, l'ensemble de la communauté mondiale, parfois avec quelques débats houleux, a fait de son mieux pour trouver le meilleur équilibre pour l'environnement.
Alors tout à l'heure, vous avez abordé la question de la cybersécurité, mais peut-être avant de revenir là-dessus, une notion qui me paraît importante, surtout lorsqu'on est directeur d'une société telle que la vôtre, c'est la notion de client. Alors toujours, si vous permettez, pour rester sur dans le cadre de ces termes aviation civile, quels sont vos clients ? Quels sont les clients de l'aviation civile aujourd'hui ?
Alors, de France Aviation Civil Service, les clients de France Aviation Civil Service, assez traditionnellement, alors peuvent être n'importe qui, déjà, c'est un point, mais assez traditionnellement, sont plutôt des autorités à travers le monde, dont le sujet est souvent la conformité aux règles de l'aviation civile internationale. Et là, les audits, la mise en place des autorités de surveillance, ça peut être les aéroports, ça peut être les organismes de navigation aérienne, notamment pour des histoires d'optimisation opérationnelle. Ça peut être, enfin, toute personne, on a travaillé par exemple aussi récemment sur Bogota, sur une étude qui consistait à essayer d'envisager de mettre en place un deuxième aéroport dans cette capitale de la Colombie. Et si vous y êtes déjà allé, vous savez que c'est entouré de montagnes, que c'est un peu compliqué comme environnement. Et mettre un aéroport, il n'y a pas beaucoup de place. Et à ce moment-là, il faut commencer à envisager des procédures satellitaires. Voilà. Donc c'est tout notre savoir-faire. Mais pour répondre à votre question un peu rapidement, c'est assez souvent les fournisseurs de services navigation aérienne et les autorités de l'aviation civile.
Alors ces clients, je suppose que vous êtes obligé d'aller les chercher. Vous parliez tout à l'heure vous rentriez le week-end dernier de Lomé au Togo. Quand je vous ai contacté, vous étiez d'ailleurs là-bas. Alors je suis un petit peu indiscret, mais puis-je me permettre de vous dire, mais vous étiez là-bas par exemple pourquoi ?
Alors j'étais là-bas la semaine dernière pour la cinquième réunion des fournisseurs de services de navigation aérienne de l'Afrique. Donc c'est une réunion qui a eu lieu à peu près tous les 5 ans et dont l'objet c'est un petit peu de faire monter en puissance ce qu'on n'a pas encore réussi à faire totalement en Europe, mais qui n'existe pas en Afrique non plus, c'est le ciel unique africain. Et donc cette réunion réunissait l'ensemble une grande partie des fournisseurs de services navigation aérienne, donc du contrôle aérien africain.
Et donc, vous êtes identifié comme fournisseur de services dans...
Alors moi, je ne suis pas fournisseur de services. Oui. Mais en fait, on a de bonnes relations avec nos homologues, avec l'Afrique. Et en particulier, on a pris des initiatives au début de la période Covid qui consistaient simplement à partager un peu de savoir-faire. On a partagé des supports, des manuels sur, par exemple, la reprise des aéroports... quand le trafic reprendrait. À l'époque, on était au printemps 2020, on croyait que ce serait à l'automne 2020. Mais on s'était un peu trompé. Mais on a partagé aussi des supports avec la crise. Par exemple, toutes les règles de renouvellement des licences de contrôleurs ou de pilotes qui sont fondées sur un exercice régulier du métier, de nombre d'heures... Ben tout simplement, avec les confinements, avec la chute du trafic aérien qui a eu lieu, ne pouvait pas être retenu. Donc on a prodigué et partagé un certain nombre de conseils et de volets, notamment en identifiant tous les volets de réglementaires qui pouvaient être touchés par le Covid. Et ça, on l'a envoyé à tout le monde, dans le monde entier. Et puis de ça est venu aussi quelques bonnes relations. Et donc on est maintenant régulièrement invité à ces réunions régionales.
Oui, parce que vous avez besoin de vous faire connaître finalement.
Oui, il le faut. Oui.
Alors on parlait tout à l'heure de cybersécurité. Moi je vais faire le lien avec la notion de données, de gestion de données. Il me semble qu'aujourd'hui on a un besoin très fort de gérer les données, de les centraliser autant que possible, de les rendre disponibles aux divers acteurs, disons, de cette aviation civile. Alors comment peut-on à la fois avoir l'objectif de partage de données autant que possible, d'exploitation des données, et puis d'avoir une certaine vigilance quant à la cybersécurité ?
Alors, ce problème n'est pas lié à l'aéronautique, clairement, puisque en fait tout le monde l'a, votre radio l'a, tout organisme qui travaille aujourd'hui est partagé entre le besoin de communiquer tous les jours par Internet, par les mails, par tout ce qu'on veut, par l'échange de données, par les services web, par tous ces gros mots qu'on a inventés dans les dernières décennies, et par la nécessité de se protéger. Et donc la solution, elle vient... il n'y en a pas de merveilleuse, mais elle vient au travers de processus et de procédures qui sont cadrés, de méthodes de formatage des données qui peuvent être interprétées par celui qui a le droit de les lire, et par une vigilance accrue et un système d'alerte qui fait qu'on évite de propager une attaque qui peut exister. Donc j'ai un peu travaillé sur ces questions-là, mais pas trop en tant que Frax, mais dans le passé. Mais évidemment, malheureusement, à chaque parade, une évolution possible des cyberattaques, et à chaque cyberattaque, une nouvelle parade possible. Et je suis un peu désolé que nos sociétés génèrent ce genre de choses, puisque en fait, c'est du vandalisme. Ça me fait toujours mal de voir un abribus cabossé, puisque c'est un service public qu'on vient casser pour le plaisir de casser. On est un peu comme ça de la cybersécurité sur l'aviation ou sur les transports de façon générale.
Alors, aux bornes de cette cybersécurité, il y a aussi tout simplement la mise à disposition des données, sans parler d'attaque. Moi, je vais prendre pour exemple ce qui s'est passé récemment avec ce 777 qui a remis des gaz sur Paris. Et c'est quand même étonnant d'avoir le soir même et quelques heures après le dialogue entre pilote et puis contrôleur sur un tel sujet.
J'aurais même tendance à dire ça devrait pas. Voilà. Ça devrait pas, parce que tout simplement, y a plein de gens qui ont écouté ce dialogue et qui ne l'ont pas nécessairement compris et qui l'ont peut-être mal interprété. Et comme vous le savez, puisque c'est un incident grave, il y aura enquête, il y aura analyse, et ce n'est qu'après une compréhension totale de l'ensemble des circonstances de l'incident qu'on pourra réellement se faire une opinion. Alors les professionnels de l'aviation le savent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'accident. C'est parce qu'on fait ce travail sérieusement, et tous les jours, sur tous les incidents, petits... moyens et grands, qui sont potentiellement des précurseurs de l'accident. Et 2017 était une année sans accident dans le transport aérien commercial mondial. Et je rappelle quand même que dans le monde entier, il y a beaucoup moins de personnes qui meurent d'accidents d'avion qu'en France d'accidents de voiture. Grosso modo, il y en a trois fois moins, mais dans le monde. Voilà, donc... Donc je pense qu'il ne faut pas partager ce genre de choses. Il faut peut-être partager les résultats de l'enquête une fois qu'elle est mature. Mais le dialogue direct entre les opérationnels, je ne suis pas un partisan de ce type d'échange, de partage.
Alors, on arrive doucement au sujet de la gestion de données qui est au cœur, me semble-t-il, de votre société. Mais avant d'y venir, j'ai une question par rapport au militaire, parce qu'on parle de l'aviation civile et on voit que notre monde aujourd'hui est tellement agité que les aspects militaires, qu'ils soient au sol ou en l'air, ont de l'importance. Comment se gèrent ces questions de données côté militaire? Est-ce que vous intervenez avec ça? Est-ce que vous pouvez avoir finalement l'armée en tant que client
sur... Alors, on pourrait, on l'a très rarement, mais on pourrait. Rien n'empêche. On a beau être dans l'aviation civile, Ben, globalement, et vous le savez, l'espace aérien est en général, est premièrement sous un espace souverain des pays. Donc il y a quand même une question de défense aérienne qui est toujours présente. Et puis il y a une question de partage de cet espace aérien entre les activités militaires, soit de surveillance aérienne du territoire, soit de missions opérationnelles, et les activités du trafic civil, liées au trafic civil. Il y a parfois toujours nécessité de se coordonner, et puis parfois, dans certaines situations, on a des contingences à régler en la matière. Donc oui, on a potentiellement à travailler avec les militaires. Je parlais de Bogota tout à l'heure. Sur Bogota, une de nos difficultés était une grosse zone militaire qui prenait une grosse part de l'espace aérien. Et on a été amené à faire des propositions pour la réorganiser, la modifier, en modifier la géométrie pour laisser passer le trafic civil. Donc oui. Alors c'est vrai qu'en ce moment, la situation en Europe, notamment, fait qu'on parle un peu plus de guerre. Bon, néanmoins, vous n'aurez pas échappé qu'il y a d'autres zones du monde où ça a été présent et où c'est encore présent avant que ça nous arrive à nous, Européens. Donc oui, cette question est toujours présente.
Je profite de ces questions pour maintenant essayer de cerner votre entreprise au sein de toute cette complexité de l'aviation civile. Je dirais complexité positive parce que vous avez bien montré qu'il faut aussi la gérer. Alors comment s'intègre votre société au sein d'un organisme qui existe et qui existait avant sa création et qui continue d'exister? Je pense à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au niveau France, la Direction de la sécurité et de l'aviation civile, la DESAC, l'Institut de transport aérien avec son fonds documentaire qui a existé. Alors comment vous êtes parvenu à vous justifier par rapport à tout cet ensemble?
Alors bon, moi, j'ai aucun mérite puisque j'ai pris une entité qui préexistait. Mais la France a toujours été régulièrement sollicitée par un certain nombre de pays ou d'instituts ou d'entités pour partager son savoir-faire. Et bon, on appelait ça coopération technique dans le temps. Et il y a toujours eu un volet un petit peu de partage institutionnel, on va dire gratuit, de coopération, et un volet de partage plus commercial ou valorisé, je vais le dire comme ça. Pour avoir fait beaucoup d'actions de coopération institutionnelle dans le passé, notamment quand j'étais à l'ENAC, je crois qu'il est important d'être capable de faire de la coopération technique valorisée. Les deux aspects existent au sein de l'OACI. On dit cooperation pour l'un, et donc ça veut dire que c'est payant, et on dit assistance pour l'autre, et on dit que c'est gratuit. En France, on inverse plutôt les deux mots. Je vais citer une anecdote. Mon père, nord-africain, c'est pas une caractéristique des nord-africains, mais c'est une caractéristique de mon père. S'il allait au magasin et que des choses étaient gratuites, il les prenait. Et puis il les amenait, et puis quand il arrivait à la maison, il posait sur la table, puis il oubliait l'objet. Par contre, quand il achetait quelque chose, il ne l'oubliait jamais. Et je crois que c'est vrai également en termes de coopération, c'est-à-dire que il faut mettre un peu de vous dans un acte que vous aurez en retour. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil que de recevoir seulement. Et donc, voilà, ça, c'est l'objet de France Aviation Civil Service. Au sein de la DGAC, vous avez également une mission de la coopération internationale qui, elle, est plutôt sur de la coopération institutionnelle. Les deux essayent de se coordonner. Globalement, c'est assez bien compris par nos clients. C'est un mot que vous avez cité à l'instant, et qui m'est cher, enfin, que j'ai appris à apprécier, qui est souvent pas obligatoirement bien valorisé en France, mais je peux vous dire qu'au Canada, c'est très important, la notion de service et de client. Je l'ai appris au quotidien, mais voilà, client, ça s'écrit avec un grand C, ça s'écrit pas comme quelque chose qu'on va exploiter ou surexploiter ou voilà, dont on va soutirer quelques subsides. Non, c'est quelqu'un qu'on va servir. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire que globalement, quand on vient vers nous, en général, c'est qu'on a un problème qui est non résolu, on le pose sur la table. Et nous, notre boulot, on est une petite équipe, une dizaine de personnes, c'est de rassembler les compétences qui vont permettre d'aborder ce problème. Et ça va être notre match de l'équipe de France de l'aviation civile. C'est ce match-là qu'il va falloir gagner.
Alors j'allais dire, on ouvre la porte de Frax et finalement là on pose le ballon au milieu de son terrain. Alors Farid, on arrive à notre pause musicale dont le choix vous appartient. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce choix ?
Ben, j'ai choisi une musique d'un film de Michel Oslo et c'est une musique, alors je crois que c'est Gabriel Yared qui en est l'auteur. Et le film, c'est Dilili à Paris. Alors, pourquoi avoir choisi cette musique ? Premièrement, parce que elle porte un film que j'adore. Deuxièmement, parce qu'elle amène à la fois cette notion de l'étranger et de la France au travers même du film. Et puis, c'est de la nostalgie joyeuse. Enfin, il y a, voilà. Et ça, c'est présent partout dans le film, c'est présent dans la musique. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette musique qui me semble correspondre et à moi-même et à l'objet de notre entretien.
Donc, on va aller vers Montmartre et ensuite la découverte de Paris.
Merci.
Alors nous revoici dans l'Oiseau Blanc avec notre invité, M. Farid Zizi, directeur général de France Aviation Civil Service. Alors on vient d'écouter ces deux extraits du film d'Ilili. Film dans lequel, bon, j'ai un peu regardé, il y a des messages, maltraitance, l'égalité des sexes, la tolérance, le vivre ensemble, l'ouverture sur l'autre, la défense aussi par rapport au racisme, l'amitié, la multiculturalité. Avant de poursuivre, Farid, tous ces débats, ce n'est pas un peu vous cela ?
Ben oui, il y a un peu de moi. Bon, je suis devenu très très modeste par rapport à tout ça. Enfin, j'avais de grandes idées, et puis maintenant, mon idée est tout simplement de faire aux autres ce que j'aimerais qu'on fasse à moi-même. Et oui, il y a tout ça. Oui. Il y a la nécessité, en tout cas, d'être en permanence conscient de ces questions. Trouver le bon équilibre n'est pas toujours évident, mais oui, il y a tout ça, oui.
Alors, cette envolée humaine, on revient sur Frax. On a ouvert finalement la porte de Frax juste avant cette pause musicale. Alors pourriez-vous nous décliner un peu ce qu'est votre société par rapport à l'exploitation des données, ce partage que vous voulez faire, nous préciser vos objectifs en fait.
Alors,
aujourd'hui,
vous insistez beaucoup sur les données. En fait, c'est une évolution récente. Ce qui nous est arrivé avec la crise Covid, on est d'abord là pour partager des compétences, hein, et pas des données, et de résoudre, d'aider, de conférer. Alors, partager des compétences, c'est aussi conférer à son interlocuteur, à son client, comme je disais tout à l'heure, l'autonomie. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de rester éternellement quelque part. Donc ça, c'est important. Alors, les données, si j'ai donné l'impression, lors de nos discussions préalables, de parler de beaucoup de données, c'est parce que cette crise du Covid nous a mis dans une situation très bizarre. Notre métier, c'est l'international, c'est le contact avec les autres, et on ne pouvait plus voyager. Et donc, on s'est retrouvé alors à faire des vidéoconférences, ça, on n'a pas arrêté, mais aussi à se poser la question de comment on peut faire de la coopération sans nécessairement être toujours en situation de voyage. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Premièrement, on a beaucoup continué à échanger en utilisant des moyens, je dirais, de bureautique partagés. Et on a commencé à développer quelques plateformes collaboratives. Une plateforme qui s'appelle Diadem. Alors Diadem, c'est pas seulement un bijou, ça veut dire Digital Airspace and Modeling Environment. Et l'idée derrière, c'est au travers du web de pouvoir travailler ensemble un espace aérien, à le modéliser, à jouer une situation aérienne, à calculer les indicateurs de sécurité, d'environnement, de régularité, de capacité. Si on a poussé vers ça pendant le Covid, ça ne veut pas dire que ce n'était pas nécessaire avant. Parce que dans l'activité internationale, ce qui se passe souvent, c'est qu'on travaille beaucoup quand on va sur place, et après, il y a des formes de trous, on va dire, dans l'énergie partagée. Et le fait d'avoir une plateforme collaborative permet de continuer à travailler ensemble, y compris quand on n'est plus sur place. Et donc ça, c'est une bonne chose. On l'a fait également en utilisant un outil que la DGAC a mis en service en 2020, qui s'appelle Météor, qui est un outil qui permet la collaboration entre les organismes surveillés, que ce soit des compagnies aériennes, des aéroports, des organismes de navigation aérienne et l'autorité de surveillance. Et on l'a également fait, on vient de lancer une plateforme qui s'appelle ATD Analytics, pour Air Transport Data Analytics. dont l'objet, c'est de partager. On a la chance d'avoir hérité de l'Institut du transport aérien et des bases de données statistiques du transport aérien mondial. J'insiste là-dessus, on mène une enquête chaque année auprès de 4000 aéroports dans le monde. Et à partir de là, on a beaucoup de données sur le transport de passagers, sur les liaisons point à point entre ville à ville, sur le fret, sur les mouvements. Et donc l'objet de cette plateforme est tout simplement de rendre cela consultable. Alors comme on est obligé de gagner notre vie, on le fait sous forme d'abonnement, mais voilà, de mettre à disposition toutes ces choses. Et puis, on continuera. Bien sûr, il faut travailler, mais je crois que c'est important parce que une des difficultés dans l'activité internationale, c'est véritablement ces ruptures de charge et la continuité du travail. Et je pense que ces plateformes peuvent nous y aider. Je ne suis pas un adepte du tout digital. J'aime beaucoup le contact entre les uns et les autres. Et je pense que ça doit rester nécessaire. Un monde qui serait fait que de visioconférences et de plateformes digitales serait un monde absolument inhumain. Mais par contre, bien utiliser en bon équilibre ces types d'outils, c'est une bonne chose.
Alors vous m'avez, je dirais justement, corrigé tout à l'heure par rapport à cette question des données. J'allais vous poser une question, j'avais préparé une question sur la dispersion, l'éparpillement de la mise à disposition des données. Et finalement, d'après ce qu'on est en train de dire, vous m'avez bien corrigé là-dessus, il y a à la fois les données et puis les compétences. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a ce lien entre... Votre société est là pour faire une forme de centraliser les compétences et avoir les compétences en particulier qui viennent de l'aviation civile nationale française, puisque vous vous appuyez sur des experts français en fait.
Oui. Alors on a quelques experts étrangers, mais l'essentiel de l'expertise qu'on projette à l'étranger est française. Elle vient essentiellement de ce que j'appelle l'écosystème de l'aviation civile française. Et volontairement, je ne dis pas DGAC, je dis aviation civile française, parce qu'elle est composée, bien sûr, de gens de la DGAC et de l'ENAC, de ses experts. Elle est composée de jeunes anciens de ces services-là. Elle est composée aussi d'entreprises avec qui des liens se sont tissés, qui ont des savoir-faire. Et une des choses qui est assez agréable dans mes fonctions actuelles, c'est que quand un projet se présente, on peut composer le partenariat qui va permettre de gagner le match, si je reprends mon image de l'équipe de France. Et alors que précédemment, dans les services, et grosso modo, alors il y a toujours beaucoup de possibilités de travail, mais on est quand même limité par le périmètre du service en question. Et typiquement, il y a des compétences que la DGAC n'a pas, qu'elle va chercher parfois au travers d'un marché de sous-traitance, etc. etc. Mais il n'y a pas la même dynamicité que dans nos opérations internationales et nos projets. Et ça, on le vit bien à Frax.
Et en fait, vous vous rapprochez de cet objectif. On en a parlé pas mal de l'OACI en ce début d'entretien. Et cette volonté, finalement, de partager.
Oui. La semaine dernière, à Lomé, par exemple, une des choses que j'ai proposées... c'est de mettre notre base de données de statistiques du transport aérien mondial au service du marché unique du transport aérien africain. Et tout en constatant quand même que l'Afrique produisait très peu de statistiques. Donc la proposition est très simple, c'est de développer ensemble avec les organismes africains un système de collecte de ces statistiques et de renvoyer en échange... je dirais, la vision du transport aérien africain, Ce qui est très très important parce qu'ils n'arriveront véritablement à développer la connectivité interafricaine qu'en la mesurant. Enfin, il faut mesurer pour définir des objectifs et il faut continuer de mesurer pour, par exemple, investir les bonnes choses, enfin, etc., qui sont nécessaires, que ce soit sur des moyens satellitaires ou ailleurs. Voilà, on a fait également d'autres propositions. Et aujourd'hui, je m'attache à ce que nos plateformes collaboratives, qu'elles s'appellent Diadème ou autres, soient capables de faire ce qu'on sait faire en France ou européen dans des environnements qui sont relativement riches, qu'on sache faire la même chose partout. Et il faut qu'on fasse attention, nous, Européens, on croit qu'on a du savoir-faire. Alors c'est vrai, on en a, mais on a la chance d'être dans des environnements très riches, en données, en statistiques, en compétences, etc. Bon, les Américains, pareil, mais il y a quand même une grande partie du monde qui ne bénéficie pas de cette richesse. Et être capable de transposer une compétence dans ces parties-là, c'est aussi être capable de travailler, je dirais, à ce qui est essentiel, et qui va marcher également ailleurs, et pas d'emporter toutes les conditions européennes et la complexité qui va avec dans un endroit qui n'est pas capable de gérer cette complexité. Et ça, c'est un enjeu de tous les jours.
Est-ce que ça signifie que ce désir de décomplexifier, finalement, a pour but de se retrouver sur des environnements plus légers ? Enfin, j'entends des environnements techniques.
Oui, oui, oui. Et en fait, c'est exactement ce qu'on faisait à l'OACI. C'est-à-dire qu'à l'OACI, l'objectif, c'était d'écrire en trois lignes un standard qui dirait l'essentiel. Bien souvent, parfois, en Europe, on transforme ces trois lignes en 10 pages. Et oui, oui, c'est ça qui est important. Quand j'utilise le mot essentiel, c'est pas au sens de ce qui est important, c'est au sens de l'essence des choses. Ce qu'il faut, c'est être capable de transmettre cette essence, voilà, pour que chacun, dans son environnement propre et dans son pays, avec ses contraintes économiques, avec ses contraintes sociales, etc., soit capable de transformer, de garder l'essence et de la transformer dans son environnement particulier. Et je pense qu'on fait de la bonne coopération internationale quand on arrive à faire ça.
Alors je suppose que cette essence, on peut la décliner par exemple avec la formation, hein, tout simplement, oui. Décliner de la formation. Et puisqu'on parlait de contrôle tout à l'heure, est-ce qu'on peut envisager finalement des stimulations au bénéfice des contrôleurs très légères, c'est-à-dire caricature, le contrôleur contrôlant chez lui sur son propre ordinateur et voire disons dans le bureau de sa société, mais ne plus se retrouver avec des contraintes fortes qu'on a connues certainement jusqu'à présent.
Alors avec Diadème aujourd'hui c'est possible. Alors je ne veux pas dire qu'on est dans une situation de contrôleur contrôlant traditionnel comme un écran radar, mais on a une visualisation radar. On peut donner des clairances aux avions, on peut jouer une situation, et on a une forme de réalisme, et à mon avis, il y a clairement un cas pratique pédagogique qui est possible, sur lesquels on s'est promis de travailler avec l'ENAC d'ailleurs, et qui permet des choses au grand international sans un déploiement de moyens lourds. Et ça permet à un certain nombre de pays de pouvoir accéder à ces choses-là.
Alors, qui dit simulation de contrôle dit avoir la possibilité de, pardonnez-moi du terme, de récupérer les données des vols qui sont passés les jours derniers, voire les années précédentes. Alors, le commun des mortels, si je puis dire ainsi, peut disposer, par exemple, de l'application FlyRadar 24. On a tous, plus ou moins, cette application sur son smartphone. Est-ce que vous avez des données qui viennent de chez eux, par exemple ?
On peut en avoir. Typiquement, quand on a fait notre étude sur Bogota, j'ai acheté des données historiques sur des jours de pointe de Bogota à FlyRadar 24. Et ça nous a permis de, de monter des simulations avec des échantillons de trafic. On a également demandé à nos partenaires colombiens de nous fournir des données, chose qu'ils ont eu un petit peu de mal à faire, en tout cas pour les mettre dans le bon format. Et donc oui, alors ça c'est lié à une évolution récente hein, du monde de l'aviation, qu'on appelle la DSB, donc où la plupart des avions sont capables d'envoyer leur position et cette position peut être réinterprétée au sol pour construire une sorte d'image radar. Et ça peut être, c'est vrai un petit peu partout dans le monde maintenant, et donc effectivement ça ouvre de nombreuses portes.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes moins confronté à la question de confidentialité des données ? Excusez-moi, je focalise encore sur cette question de données, mais j'ai souvenir de discussions avec en particulier les compagnies aériennes qui ne voulaient pas livrer certaines données.
Alors, les compagnies aériennes ont sans doute toujours quelques petites réticences. A contrario, force est de constater que ce soit Flight Radar 24, Flight Aware, Open Sky... Il y a un certain nombre de prestataires mondiaux qui sont capables de partager de la situation aérienne. Et donc, c'est une réalité quotidienne. Donc non, on n'est pas trop gêné par ça. La difficulté est plutôt d'avoir de la donnée cohérente. Et puis, le prix de la donnée est parfois un peu cher encore. Mais je pense que ça va se démocratiser.
Et vous avez des concurrents sur le plan international ?
Oui. Oui, la France n'a pas le privilège de faire le type de travail que nous faisons. Au Royaume-Uni, une entité qui s'appelle UKCA International, qui fait un peu le même travail que nous. Il y en a en Espagne, il y en a... sous des formes un petit peu différentes, mais oui, il y a évidemment plein d'autres pays qui font de la coopération technique internationale et qui peuvent entrer en concurrence avec nous, bien sûr.
Est-ce que finalement, cette concurrence, hein, des challenges, c'est pas la qualité de l'archivage, que ce soit d'ailleurs la compétence ou les données ?
Oui, enfin le challenge, c'est bon. Déjà, j'ai appris avec cette fonction, une fonction que je ne connaissais pas, c'est la vente. Je dirais, avant que les gens reconnaissent votre compétence, il faut qu'ils l'aient vue et qu'ils l'aient achetée. Ça a l'air bête, hein, mais c'est pas si simple. Parce que le commerce. D'ailleurs, pas toujours persuadé que je sais faire. Et après, l'autre difficulté, probablement, on a réussi un projet avec une équipe d'experts, c'est de reproduire ce qu'on a réussi à faire une fois. Les experts ne sont pas toujours disponibles, la même équipe n'est pas obligatoirement... Enfin, les équipes ne fonctionnent pas... de façon parfaite toujours, et ça c'est pas si facile que ça. Donc vous parlez d'archivage des compétences,
c'est un peu dur. Hein.
Voilà, je pense que les choses sont un peu plus humaines que ça, mais reproduire des choses qu'on a su faire, c'est pas si simple parce que les contextes sont à chaque fois différents, la temporalité est différente, il y a évidemment des contraintes financières... qu'on a moins dans des environnements institutionnels. Voilà, ça, c'est pas gagné.
Alors, on voit que notre discussion nous conduit finalement petit à petit à la problématique du directeur que vous êtes, d'une PME, on peut le dire.
Oui, puisque FRAC, c'est une dizaine de personnes en permanent.
Et on a parlé de l'aviation civile et on sait qu'on connaît les incertitudes qui sont autour de ce contexte. Et comment vous arrivez à appréhender, vous, en tant que patron de cette PME, ce risque, quelque part ?
Alors, c'est pas facile. C'est pas facile, d'abord parce que On vient d'un monde et on est dans un monde qui était pétri de certitudes. C'est-à-dire que si vous regardez la courbe de trafic du transport aérien mondial depuis 1944 jusqu'en 2019, grosso modo, c'est une belle courbe, voire exponentielle, ce qui explique l'aviation bashing, puisque grosso modo, le principal reproche qui était fait à l'aviation, c'est d'être toujours en croissance. Et c'était une réalité, c'est-à-dire que même au moment de la guerre du Golfe, d'un certain nombre de choses, il y a eu des méplats dans la courbe, mais globalement, bon an, mal an, on augmentait à 5% le trafic mondial chaque année. Et puis en 2020, paf, on a fait une chute de 70%. Alors, pas obligatoirement lié aux questions économiques, c'est simplement lié au fait qu'un avion s'est fait pour passer une frontière et quand on ferme la frontière, ben, il n'y a plus de raison de prendre l'avion, surtout quand tout le monde est confiné. Donc ça a été dur. Ça a été dur en plus pour nous, dont le métier c'est l'international, c'est-à-dire que... Donc, je me suis fait du mauvais sang, je m'en fais toujours un peu. Le trafic est en train de reprendre, mais il y a une certaine prudence. Et c'est vrai que, je dirais, par rapport aux certitudes de nos compétences qui allaient se projeter sur un certain nombre d'endroits où on était déjà dans une forme de compétition, on a trouvé des formes d'incertitude et d'obligation de se poser des questions sur nos fondamentaux qu'on n'avait pas au préalable. Donc en cela, j'ai appris ce stress du directeur d'une PME, que stress que j'avais pas connu dans cette forme-là, y compris dans les responsabilités que j'avais pu occuper précédemment. Mais je suis très admiratif de tous ces patrons de PME. Moi, je suis pas dans cette situation personnelle, mais qui hypothèquent la maison pour faire valoir leurs idées et faire vivre leur entité. Et vraiment, je suis content d'être dans ce monde parce que j'aurais manqué quelque chose de partir à la retraite sans l'avoir vécu.
Est-ce que vous avez néanmoins utilisé, je dirais, plus votre liberté ?
Alors j'ai la chance, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce poste, d'avoir une très grande liberté. Et ça c'est formidable. Mais c'est aussi une très grande responsabilité, c'est-à-dire que quand vous êtes libre, ça veut dire aussi que vous endossez l'ensemble de la responsabilité. Donc c'est très sympa d'avoir tout le pouvoir de l'imagination et en particulier ces plateformes ou d'autres choses ont pu exister grâce simplement au pouvoir créatif de l'équipe et aussi un peu du mien. Mais voilà, il y a chaque chose son revers, mais c'est oui, cette liberté, moi je l'ai toujours appréciée. J'avais eu la chance de travailler dans une DGAC qui est quand même pas si contraignante que ça, et d'avoir quand même beaucoup de marge d'initiative. Mais là, j'ai une liberté totale à la condition que ça marche. Ça a l'air bête, mais il faut encore que ça marche. Et donc, y a quand même le coup près des comptes à la fin de l'année. Il y a un certain nombre de choses qui existent et qui sont obligatoires. Mais cette liberté, oui, est totalement appréciable.
Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, je me permettrai de refaire un lien avec ce qu'on disait au début, en l'occurrence le lien avec l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et j'ai souvenir, lors de notre discussion il y a 4 ans, donc pardonnez-moi d'élargir au niveau d'une conclusion sur l'évolution du trafic, et on se posait la question de la croissance internationale, et on se disait, et vous disiez, que la croissance serait centrée beaucoup plus, serait centrée vers l'Asie, et on parlait d'une croissance à 2 chiffres à l'époque. Est-ce qu'on y est encore ?
Très très difficile à savoir. Ceci d'autant plus qu'en ce moment, l'Asie est confinée à cause du Covid. C'est probablement une des seules régions du monde qui est encore assez fermée. Et puis arrive avec les suites du Covid, de la guerre en Ukraine, etc. Une situation économique mondiale qui peut avoir des répercussions, puisque vous savez qu'il y a une corrélation assez intime entre le PIB et le transport aérien. Et donc je ne sais pas trop comment vous répondre. Il me semble clair que quand même l'Asie a encore énormément de potentiel économique, qu'elle a quand même une caractéristique que les États-Unis avaient au début de l'aviation, c'est-à-dire un marché intérieur qui est suffisamment important pour nourrir l'économie du transport aérien local et régional. L'Afrique a un potentiel important, elle part de plus bas en termes de nombre, mais si sa population commence à voyager, ça amènera énormément d'évolution. Les marchés européens et nord-américains sont plus matures et probablement ont beaucoup moins de potentiel d'évolution.
Alors Farid, nous arrivons à la fin de notre émission et notre discussion. Vos explications ont montré combien ce domaine de l'aviation civile et de ses services associés est certes complexe, mais comment un passionné comme vous peut nous aider à mieux le comprendre ? Alors dans une dernière émission, dans la dernière d'ailleurs, je recevais un contrôleur aérien de l'aéroport d'Orly. Et avec lui, nous avons compris que la gestion en temps réel de l'incertitude est finalement au cœur de son métier. Avec vous, Farid, nous venons d'appréhender, me semble-t-il, une autre complexité, celle d'une gestion d'incertitude liée d'une part aux aléas de la conduite de toute entreprise, mais aussi de celle beaucoup plus globale du contexte de l'aviation civile dont on vient d'ailleurs là de parler. Alors cette passion qui est la vôtre, ce souci d'un regard vigilant sur un contexte de travail en plein questionnement, en respectant toujours les humains qui exercent leur activité, merci d'avoir su nous les faire comprendre et surtout de nous les avoir fait partager. Alors, permettez-moi de vous souhaiter le meilleur à la barre de France Aviation Civil Service, FRAX. Et pardonnez-moi cette comparaison avec le bateau. On a tellement parlé de cette équipe de foot, mais je dirais que je sais qu'avec vous, votre bateau sait où il va et où il ira. Alors, Monsieur Farid Zizi, je vous laisse conclure cette émission, si vous le voulez bien.
Alors déjà, moi, j'ai pas parlé d'équipe de foot, j'ai parlé d'équipe. Et en ce pays de rugby, j'apprécie énormément le rugby. Et pourquoi j'apprécie le rugby ? Parce que c'est un sport collectif où tous les joueurs ne se ressemblent pas. Il y a des baraqués, il y a des petits, il y a des grands, il y a des coureurs, il y a des plus lourds. Et ça me semble être une image d'une équipe diverse où chacun comprend son rôle et participe à un effort collectif. Je suis assez fier des résultats de l'équipe de France en ce moment. D'équipe.
Je ne dis rien parce que voilà. je voulais pas conclure, donc je vous laisse.
Donc voilà, ça c'est important. Je pense que c'est aussi important et... puisqu'on se parle en ce mois d'avril, de conserver le sens de la mission de paix de l'aviation, de contact entre les peuples. Le constat que je fais quand même dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que le mot de souverainisme, qu'on pourrait apparenter à nationalisme, et monte, et pas simplement dans nos pays. On le voit arriver dans de nombreux pays, dans d'autres continents. Il est fondamental qu'on continue d'entretenir, de conserver, de consolider, de travailler à ces liens de paix et de... interculturels et internationaux, et je pense que l'aviation est un bel outil. C'est pas le seul. Il faut aussi vouloir utiliser l'avion pour ce but. Mais ce serait ça ma conclusion, c'est que il faut absolument, en ce jour où on se pose la question du Conseil de sécurité de l'ONU, ne pas oublier que la mission première de l'ONU, mais de l'OACI, qui est une organisation onusienne, c'est le maintien des équilibres de ce monde et de la paix.
C'était L'Oiseau Blanc, une émission de Philippe Trousselard, avec à notre veille technique, notre souriante Tiphaine Lemaine. Vous retrouverez bientôt cet enregistrement de L'Oiseau Blanc sur le site de la station, mais aussi grâce aux pages Facebook de l'émission et de la radio. Et n'oubliez pas de télécharger nos applications Apple et Android d'Esprit Occitanie, et surtout de réécouter tous les podcasts de l'émission qui sont disponibles, et en particulier celui de cette première émission avec notre invité de ce jour. Dans la prochaine émission, j'espère qu'elle pourra se faire, j'accueillerai M. Bernard Zappoli, qui est ingénieur émérite au Centre National d'Études Spatiales, où il a conduit de multiples recherches, lauréat de la promotion 2000 du Grand Prix de l'Académie des Sciences de Paris. Avec lui, nous parlerons de l'immensité de l'univers, des frontières de l'espace et certainement de métaphysique. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt avec L'Oiseau Blanc.